Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler de l'OTAN, de son actualité et de ses perspectives, alors que l'organisation célèbre cette année ses 75 ans et va notamment le faire à l'occasion du sommet de Washington en juillet, et puis aussi et surtout pour évoquer la place de la France dans ce paysage, j'ai le plaisir de recevoir depuis Bruxelles l'ambassadrice Muriel Domnac, représentante de la France auprès de l'OTAN depuis 2019. Donc bonjour, merci beaucoup d'être avec nous et bienvenue dans le Collimateur.
Merci.
Alors, je l'ai dit, il va s'agir non seulement de parler de l'Alliance, mais aussi des dynamiques propres à la France dans ce cadre, qui ont été pour le point mouvementées à l'échelle de l'histoire de l'OTAN et puis depuis quelques années. Et de ce point de vue, on peut dire, pour commencer tout de suite dans le vif des choses, que vous avez été nommé à un moment assez étonnant, puisque vous êtes arrivé, ou plutôt revenu au siège de l'OTAN, puisque c'est pas votre premier passage à Bruxelles, on en reparlera, mais quelques semaines, je crois, avant l'interview fameuse du président Macron en novembre 2019 à The Economist, où il énonçait qu'on était en train d'assister à la mort cérébrale de l'OTAN. Alors, je vais juste restituer la séquence, c'était quand même après l'intervention turque dans le nord-est de la Syrie et quelques semaines après le retrait par les États-Unis du président Trump des troupes américaines dans la zone sans consulter les alliés. Je rappelle ce contexte parce que, mine de rien, c'est important et que ça mettait en avant aussi des acteurs qui peuvent toujours poser question pour l'Alliance, que ce soit la Turquie ou Donald Trump et dont on reparlera. Mais donc, comment ça s'est passé pour vous, cette séquence, dès votre arrivée en 2019?
Merci de me recevoir. C'est important d'expliquer l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et le rôle qui joue la France. Effectivement, je suis revenue à l'OTAN en septembre 2019 après une première affectation et quelques semaines après mon arrivée, je devenais la messagère d'un diagnostic sévère, celui de la mort cérébrale. Je vais vous dire franchement, le président Emmanuel Macron exprimait tout haut ce que tout le monde murmurait tout bas dans les couloirs de l'OTAN. Moi, j'ai trouvé, en revenant à l'OTAN en septembre 2019, une organisation en stress post-traumatique. Après deux sommets en 2017 et 2018, au cours desquels le président Trump s'était conduit avec une brutalité, une désinvolture inouïe et une remise en cause explicite de l'article 5, non seulement dans des termes « pourquoi je devrais défendre tel ou tel membre ?»
Alors qu'il ne paye pas la facture.
Mais également en établissant les termes d'une transaction. « Vous ne payez pas, je ne vous défends pas. » Donc, le président Macron a dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas, c'est-à-dire il a désigné l'incertitude, finalement, sur la garantie de sécurité américaine, premier élément. Deuxièmement, il a désigné également une interrogation portant sur la solidarité de la part et avec la Turquie, puisque la Turquie, en conduisant une opération unilatérale dans le nord-est syrien, après un feu vert, là aussi unilatéral, du président américain, prenait le risque d'affecter les intérêts de sécurité d'autres alliés, mais aussi de renforcer Bachar el-Assad et son parrain russe en Syrie. Et puis, troisième élément, il a voulu susciter un choc, une forme de prise de conscience de la part des autres Européens. Donc, crise du leadership américain, crise de solidarité avec la Turquie, crise de responsabilité des Européens. Il a désigné trois éléments que chacun se murmurait dans les couloirs. Encore une fois, la première chose qui m'a marquée en revenant à l'OTAN à l'automne 2019, c'était le traumatisme suscité par l'administration Trump dans les couloirs de l'organisation.
Mais c'est intéressant, et ironique un peu, ce côté où la France devenait le gardien du temple, d'un coup, de l'intégrité de l'Alliance et de son identité, de ses fonctionnements, face notamment aux États-Unis de l'époque, ce qui n'est pas exactement, l'image que la France a eue au sein de l'organisation à l'échelle de son histoire. Et du coup, justement, c'est intéressant de voir que donc vous revenez en 2019, vous étiez déjà passé par ici un peu plus de 10 ans auparavant, et entre les deux, il y avait eu le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Qu'est-ce que ça a changé pour la place de la France, des diplomates français, d'une manière générale, des Français, ici, ce changement de statut, ce retour de la France?
La France a, avec son retour dans la structure intégrée, retrouvé une place qui, en réalité, a toujours été la sienne dans l'Alliance Atlantique. Simplement, elle a repris sa place dans l'organisation. Je crois qu'il est important d'insister sur le fait que non seulement on n'a jamais quitté l'Alliance Atlantique, le général de Gaulle, ça a été rappelé récemment, à la fois dans la crise de Cuba, mais après, n'a jamais ni douté, ni fait douter les Français de ce que sont nos alliances. Et donc, on s'est toujours inscrit résolument dans cette alliance entre les Européens et les Américains, même si on a expliqué, et on continue de le faire, que tout en étant alliés, on n'est pas alignés et on assume une divergence, pas par principe, mais quand c'est le cas, on assume nos divergences avec l'allié américain. Donc, on n'a jamais quitté l'Alliance Atlantique, on n'a d'ailleurs jamais quitté le Conseil de l'Atlantique Nord. Ce qu'on a quitté, c'est l'organisation intégrée, en particulier les états-majors de la structure de commandement de l'OTAN, le système de planification de forces et la planification nucléaire. On a donc réintégré les états-majors, on a réintégré la planification de forces, dont on est devenu d'ailleurs, paradoxe de l'histoire, l'un des champions. Vous savez que les performances capacitaires françaises sont saluées par le dispositif de planification de force de l'OTAN. On est parmi les alliés qui atteignent le mieux nos objectifs capacitaires, à la fois du fait d'un effort de défense important, mais aussi sur le plan qualitatif. On n'a pas réintégré le groupe des plans nucléaires. Donc, on a retrouvé dans l'organisation la place qui est la nôtre dans l'alliance politique. On a, et je crois que c'est important de le dire, refamiliarisé notre outil de défense et nos armées, et notamment nos officiers supérieurs, avec la culture de l'organisation et dans une sociabilité avec d'autres officiers alliés, c'est fondamental. On a influencé...
Parce qu'avant, ils se croisaient moins. Quand la structure était plus intégrée, ils se croisaient moins par la force des choses.
Ils se croisaient essentiellement en opération. Donc, on dit souvent que l'armée de l'air, du fait de l'intégration dans le domaine aérien, est restée en fait, bien entendu, sur des standards OTAN et a gardé une grande familiarité avec ses collègues des autres, avec les autres armées. La marine également, en réalité, sans doute, et en particulier au niveau tactique, l'armée de terre moins. Et d'ailleurs, dans les grands exercices de l'OTAN qui sont en train d'être déployés dans le cadre de la séquence Steadfast Defender sur tout le flanc oriental, on voit bien que ce qu'on cherche à renouer, c'est l'interopérabilité au niveau tactique. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Donc, cette familiarité, mais notamment au niveau des états-majors, on l'a retrouvée et on concourt, ce qui est assez naturel, à concevoir, à planifier et à commander ces actions nations auxquelles on contribue, notamment sur le flanc oriental. Donc en fait, si vous voulez, moi j'ai pas été frappée en 2019 par l'effet de la réintégration française. Il y avait un élément de normalité. Encore une fois, ce qui m'a vraiment frappée en 2019, c'est le syndrome post-traumatique dont souffrait cette alliance et que le président a désigné d'une certaine manière aggravé avec son diagnostic sévère.
Et vous avez eu l'impression que, que l'OTAN, de ce fait-là, changeait aussi d'importance pour Paris ? C'est-à-dire, quand on réintègre le commandement intégré, mais pas que, c'est aussi un signe, c'est aussi, ça veut dire, on crée des postes, on envoie des gens, etc. Vous avez senti que cet endroit, Bruxelles, le NATO HQ, le QG de l'OTAN, reprenait une importance plus centrale pour Paris ?
Oui, l'OTAN a repris une importance dans notre vie administrative. Le simple fait de déployer 670 militaires dans les états-majors de l'OTAN, évidemment, c'est une nouvelle centralité pour les armées. Mais je dirais que c'est surtout politiquement, au fur et à mesure, avec en particulier l'invasion du Donbass en 2014 et l'annexion de la Crimée, que l'OTAN a repris avec le contexte, avec la centralité de la menace russe, une importance essentielle, a fortiori depuis l'agression de l'Ukraine. Et ce qui devient structurant pour nos armées, c'est le réinvestissement du théâtre européen à partir de 2016 avec notre déploiement en Estonie dans le cadre de la présence avancée de l'OTAN décidée en 2015 suite à l'agression de la Crimée et du Donbass, et évidemment depuis l'agression de l'Ukraine, la prise de responsabilité en Roumanie, mais également une participation accrue à la police du ciel des États baltes, l'action également des moyens de la marine sur le sud du flanc oriental. Donc ce réinvestissement du théâtre européen par nos armées va de pair avec notre réinvestissement dans l'OTAN, et en fait c'est l'évolution du contexte stratégique qui a recentré l'OTAN pour nous, comme d'ailleurs la menace russe a réveillé l'OTAN par thérapie de choc, si j'ose dire.
C'est intéressant parce que vous parlez du fonctionnement. Il y a une chose qui est complètement structurante là-dedans, c'est que on décide au consensus, ce qui n'est pas une règle si fréquente que ça dans des endroits où on vote. Comment ça marche fondamentalement cette idée du consensus, puisque il faut donc avoir une, c'est pas tout à fait l'unanimité, mais c'est
entièrement l'unanimité.
Oui.
Et c'est même un principe, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'abstention constructive à l'OTAN, de façon à garantir l'appropriation par les nations de toutes les décisions qui sont prises. Donc on ne peut pas se dissocier même de la mise en œuvre d'une décision. Je peux vous dire que c'est un sujet que la France connaît bien, puisque il lui arrive encore aujourd'hui bloquer le consensus. Alors comment ça marche ? Vous avez des structures civiles et des structures militaires qui ont l'initiative. Donc, structures militaires qui sont, disons, le fruit du travail conjoint des deux commandements stratégiques, le commandement pour les opérations, le SHAPE, et puis le commandement pour la transformation. Vous savez que le SHAPE est dirigé par un officier général américain, traditionnellement, qui est également le commandant des forces américaines en Europe, et le commandement pour la transformation est dirigé par un Français, et donc se situe de l'autre côté de l'Atlantique. Sur la base de ce travail, lorsqu'il s'agit d'un sujet strictement militaire, l'état-major international, qui est un peu le secrétariat militaire, formule des propositions qui sont examinées dans les groupes de travail du comité militaire, puis au comité militaire. Ensuite, ça fait l'objet d'un avis politico-militaire dans les groupes de travail dits du Conseil, puis ça monte au Conseil, et le cas échéant, c'est approuvé par les ministres, puis les chefs d'État et de gouvernement. Il y a des textes strictement politiques qui sont examinés uniquement dans la filière conseil. Le travail commence pour nous dans l'influence, et c'est tout l'intérêt aussi d'avoir réintégré les états-majors pour que les propositions qui remontent des commandements soient conformes à nos vues. Si je prends par exemple un exemple un cas qui doit parler parce qu'il porte sur la présence avancée sur le flanc oriental. On a eu à cœur, et en cela on rejoignait les Britanniques par exemple, de concevoir un dispositif qui soit suffisamment souple, soutenable pour être crédible. Et donc pour ne pas immobiliser inutilement des forces qui, sur le papier, rassureraient, mais qui, en fait, ne permettraient pas d'atteindre le meilleur effet possible. Donc, notre présence dans les états-majors de l'OTAN a été essentielle pour que les propositions qui remontent soient conformes finalement à ce qu'on attendait. Dans ce type de configuration, on est en posture de négociation dans le oui. Pourquoi ? Parce que la proposition qui nous remonte, en fait, c'est une proposition qu'on a influencée. Je dis parfois qu'on a quatre postures de négociation. On a le oui, on a le oui-si, on a le non-sauf et on a le non. Donc on a de plus en plus le oui. Pourquoi ? Parce que notre influence, évidemment, a cru avec notre réintégration, mais je dirais avec le contexte qui a fait la démonstration que la France est un allié indispensable.
Et ça, c'est fascinant parce que ça implique de prendre le truc très en amont. C'est-à-dire, et c'est notamment des choses de micro-diplomatie qui sont tout à fait intéressantes, mais c'est qui construit le document de travail, qui l'écrit, comment... Parce que en fait, en fonction de ça... de qui est à l'origine en quelque sorte et qui est moteur, tous les autres se positionnent par rapport à ça. Et en fait, c'est une position d'influence considérable, quoi.
C'est essentiel. C'est la raison pour laquelle notre présence, non seulement au sein du commandement pour la transformation, mais à Shape, le fait que nous ayons le poste de vice-chef d'état-major à Shape, qui revient à un général français, c'est très important. Après, vous pouvez aussi influencer à travers les relations de confiance qu'on entretient entre nations. Avec nos différences, on a souvent des visions convergentes avec les Britanniques, avec les Allemands aussi, d'ailleurs, il faut le dire, avec les Espagnols, les Italiens sur d'autres aspects. On est en train de construire des convergences nouvelles avec nos alliés polonais, estoniens, roumains. Donc, l'influence, elle est faite aussi de cette familiarité sur le terrain qui se développe dans les états-majors. Ensuite, il y a un gros travail de négociation.
Bien sûr. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a toujours des questions ou des interrogations sur la place de la France au sein de l'Alliance? Puisque bon, on a quand même passé près de 40 ans hors du commandement intégré, enfin plus de 40 ans hors du commandement intégré, ça laisse forcément des traces, même dans l'attitude, y compris des Français, enfin aussi bien des responsables que de l'opinion publique française par rapport à l'OTAN. C'est moins naturel que pour certains pays qui y sont toujours restés. Est-ce que maintenant, 15 ans après le retour de la France dans le commandement intégré, ça pose toujours des questions. Par ailleurs, on n'a pas tout réintégré, on n'a pas réintégré le groupe des plans nucléaires, donc il y a quand même une spécificité. Est-ce que ça pose toujours question, ou plus tellement maintenant ?
La France reste spécifique. Cette spécificité, elle est appréhendée à la fois comme une force pour nous et comme une différence qui parfois paraît hétérodoxe et dérange. Il y a des deux. Le fait que le président ait assumé une différence dans le dialogue avec la Russie jusqu'à après l'agression de l'Ukraine par la Russie, ce qui a suscité des interrogations, bien entendu, ici. Mais donc, le fait qu'il ait assumé cette différence, je dirais, a donné d'autant plus de poids à notre évolution depuis le discours d'Emmanuel Macron à Bratislava le 31 mai dernier. Donc, notre spécificité, c'est aussi un atout. De la même manière, la France refuse toute attribution, notamment dans les domaines cyber ou dans d'autres domaines de l'hybride, On n'est pas contre l'attribution par principe, mais on n'en est pas non plus des promoteurs par principe. Et dans tous les cas, on n'attribue que sur la base d'un recoupement autonome. Et donc, lorsqu'on rejoint une attribution, les alliés savent qu'il y a, disons, un double check.
Je veux dire, ça peut agacer un peu, mais du coup, ça fait que quand on rejoint les autres, ça a plus
ça
de poids.
Ça donne d'autant plus de poids. En tout cas, on n'est pas tenu pour acquis. Mais le soupçon est, je dirais, souvent convoqué lorsque la France exprime une position différente, et souvent différente parce que, tout simplement, elle relève d'une vision différente de l'intérêt général de l'Alliance ou bien de la défense de nos intérêts, y compris nos intérêts industriels.
Qu'on fait les Français pour faire les Français, c'est ça le soupçon ?
Non, le soupçon, on nous attribue souvent la volonté d'être différent, de contester le leadership américain, par principe. C'est vrai que, si vous voulez, l'intérêt de l'organisation a tendance à se concevoir comme dans l'alignement par principe avec les États-Unis. C'est ce qui a toujours alimenté, si vous voulez, la différence de perception que les Français ont de l'organisation, parce que nous, on considère que l'Alliance, elle est d'autant plus forte que ses membres le sont. Et donc, on considère que l'intérêt des États-Unis, en fait, est d'avoir des alliés capables et même autonomes. C'est souvent pas le réflexe institutionnel dans l'organisation amène à penser. Et même, on parle souvent d'agenda institutionnel de l'OTAN, d'une organisation qui cherche à étendre ses compétences vers du hors-sujet ou vers du hors-zone. C'est une thématique assez ancienne, mais qui retrouve une actualité sur l'Asie-Pacifique. Hein. On se souvient la volonté de l'organisation d'ouvrir un bureau de liaison à Tokyo, qui aurait apporté peu de valeur ajoutée sur le terrain, mais surtout planté le drapeau, un peu pour le principe, hein, dans un agenda qu'on qualifie d'institutionnel à Paris, qui consiste finalement à s'approprier institutionnellement la priorité politique des Américains. Mais pourquoi ? Pour garder, si vous voulez, l'intérêt et l'implication des États-Unis dans l'organisation. Et là, c'est vrai que on est dans une situation où la France a un réflexe différent. C'est-à-dire que elle est présente en Asie-Pacifique, elle a des intérêts en Asie-Pacifique, elle a une approche spécifique en Asie-Pacifique, elle assume ses convergences et sa coopération avec l'allié américain, elle constate que le commandement opérationnel de l'OTAN, dirigé par le commandement des forces américaines en Europe, n'a ni pratique ni connaissance de cette zone, que donc la plus-value militaire est très faible, qu'au demeurant, les forces américaines dans le Pacifique sont à peine interopérables avec les forces américaines en Europe. Et donc, avec beaucoup de sincérité, on ne voit pas ce que le déroulement d'un agenda institutionnel dans cette zone va apporter comme plus-value en matière de sécurité. Et donc là, c'est le Français qui arrive, ou la Française en discussion, et qui dit « mais quelle est la valeur ajoutée d'une telle proposition par rapport aux effets de bord qui sont quand même réels dans l'alimentation d'un récit évidemment instrumentalisé par la Chine sur le thème de l'élargissement de l'OTAN, etc., etc. Bon, et alors là, on vous regarde et effectivement, vous sentez poindre le soupçon de « ah ben tiens, voilà la France qui… » Alors là, bon, vous avez plusieurs options au choix, soit on vous dit « voilà la France qui n'a jamais voulu du bien à l'organisation » ou bien « voilà la France qui cherche à protéger ses intérêts ». Bon, en fait, pas de bol, on n'est pas du tout ceux qui avons le plus d'intérêts économiques à protéger en Chine. Au demeurant, on est plutôt faucon sur la coercition chinoise. On est ceux qui avons inspiré une législation anti-coercition sous notre présidence à l'Union européenne. Et on a été très précoce dans la protection des secteurs sensibles d'investissement qui pourraient poser question. Donc oui, ce soupçon, il perdure, il est parfois instrumentalisé, je le trouve quand même assez résiduel, hein, pour être honnête, et surtout, on opère une mutation quand même sur laquelle je veux vraiment insister, du fait de notre implication sur le flanc oriental, on va avoir l'occasion d'y revenir.
Justement, venons-y, alors ce flanc est de l'Alliance, et puis bon, le grand événement structurant qui est quand même évidemment l'électrochoc de 2022. Alors vous l'avez dit, l'électrochoc il commence déjà en 2014 avec l'invasion du Donbass et de l'annexion de la Crimée, mais paradoxalement, ça n'a pas empêché qu'il y ait des doutes et des crises de conscience de l'Alliance depuis, notamment en 2019. Donc voilà, mais là depuis 2022, on est évidemment entré dans autre chose, et vous étiez là en février 2022. Comment est-ce que, mais même ici, quoi, dans le bâtiment, ça a été reçu? À quel point aussi est-ce que c'est passé par ici? C'est-à-dire, vous le disiez tout à l'heure, il y a des choses qui sont gérées ici, il y a aussi plein de choses qui sont gérées en bilatéral entre chefs d'État, etc. Voilà, comment est-ce que l'organisation a reçu ce choc de l'invasion russe? D'ailleurs, est-ce qu'on s'y attendait plus ici qu'ailleurs ou pas, forcément d'ailleurs? Et ensuite, de quelle manière est-ce qu'elle se l'est appropriée dans une certaine mesure, ce sujet, pour faire valoir sa valeur ajoutée, qui, enfin, dont on en reparlera, mais aujourd'hui on est en plein centre de l'organisation qui fait valoir ce qu'elle sait faire. Mais comment est-ce que l'organisation a réussi à se réapproprier et à s'imposer, disons, en quelque sorte, sur ce choc majeur qu'est l'invasion de février 2022?
Il y a eu trois phases. L'avant, l'agression et l'immédiate après agression et l'organisation du soutien à l'Ukraine. L'avant, c'est le moment où les Américains, à partir de ce qu'on observe tous, hein, c'est-à-dire le renforcement de la présence russe autour de l'Ukraine, donc à partir de novembre 2021, les Alliés intensifient leurs consultations en matière de renseignement.
Ça se passe ici.
Ça se passe ici. C'est même une des fonctions essentielles, hein, de l'Alliance Atlantique que d'assurer la consultation entre ses membres et notamment le partage de renseignements. Je ne vais pas vous mentir, le renseignement se partage mieux sur une base bilatérale. Mais lorsque un allié tient à susciter une prise de conscience politique, le partage de renseignements multilatéral, évidemment, a une utilité particulière. Ce dont je veux témoigner, c'est de trois choses. La première, c'est l'effet du retrait d'Afghanistan et des conditions du retrait d'Afghanistan sur à la fois l'organisation, mais aussi, je pense, la perception de l'organisation et de l'unité entre alliés par les Russes. Il est vrai que les conditions de ce retrait ont été un échec. C'est-à-dire que, alors que la FIAS était une opération de l'OTAN, hein, la France n'y était plus, les Américains ont pris des décisions largement unilatérales qui avaient pourtant un impact, hein, sur l'organisation. Par exemple, l'évacuation de la base de Bagram le 2 juillet 2021 avait un effet sur l'évacuation de la FIAS. Donc, je crois que les images, hein, la débandade de l'armée afghane qui avait été formée, appuyée par la FIAS, mais aussi la manière dont la consultation entre alliés a été opérée, a sans doute convaincu le président Poutine que une agression de l'Ukraine interviendrait dans un contexte de division entre alliés. Je fais l'hypothèse également que les conditions dans lesquelles l'alliance AUKUS a été nouée ne peuvent qu'avoir conforté cette conviction du président russe, hein, qu'une action de sa part interviendrait dans un contexte de division entre alliés. Donc ça, c'est le premier élément dont je peux témoigner. J'aimais d'ailleurs l'hypothèse que si la France avait été présente dans la FIAS, il est possible que les conditions auraient été un peu différentes. En tout cas, nous aurions certainement porté davantage d'exigences en termes de consultation entre alliés. Là, c'est la fonction de la France que tout le monde lui reconnaît ici dans sa spécificité, c'est-à-dire si l'allié français n'existait pas, il faudrait l'inventer. on a besoin parfois d'une voix spécifique qui ose dire ce que les autres pensent tout bas. Je ferme cette parenthèse. Premier élément dont je peux témoigner sur l'avant, c'est l'effet de l'Afghanistan. Le deuxième élément dont je peux témoigner sur l'avant, c'est que les Américains ont joué le jeu du partage de renseignements, que nous l'avons joué également. Donc une menace, c'est la conciliation d'une capacité et d'une intention. On voyait la même chose en termes de capacité russe autour de l'Ukraine. Les Américains avaient des éléments sûrs s'agissant de l'intention. Ce dont je veux témoigner, parce que tout ça a donné lieu à beaucoup d'instrumentalisation, c'est que les Américains venaient partager un renseignement auquel, d'une certaine manière, ils étaient désolés de croire. C'est-à-dire qu'ils ne souhaitaient pas nous présenter une situation alarmante pour pouvoir intervenir ou quoi que ce soit. Au contraire, ils venaient partager ces éléments avec, je crois, transparence, mais, et c'est le troisième élément sur lequel je voudrais insister, une détermination à défendre et à dissuader de toute attaque contre l'Alliance, mais aussi une volonté de dialogue avec les Russes et qu'ils assumaient vis-à-vis des alliés. Et donc, il ne faut pas oublier que dans l'avant, et jusqu'à février 2022, il y a un dialogue avec les Russes qui est assumé par les États-Unis et d'ailleurs par l'OTAN jusqu'au dernier moment. On a un conseil OTAN-Russie le 12 janvier 2022. Conseil OTAN-Russie qui a duré 4 heures. Il y a des consultations bilatérales entre les Russes et les Américains jusqu'au dernier moment. Donc,
et vous aviez l'impression qu'il se passait des choses dans ces moments-là? C'est-à-dire, vous aviez l'impression que les Russes écoutaient des choses? Ou est-ce que, rétrospectivement, c'était déjà joué?
Ce qui m'a frappé dans ce conseil OTAN-Russie, c'est que la délégation russe, et ça vous le voyez quand vous êtes une négociatrice, ne connaissait pas ses instructions en réalité, ne savait pas quel était l'état final recherché par ses autorités à la fin de la réunion. Il savait pas si l'objectif était « on n'est pas d'accord, on continue de parler », ou si l'objectif était « on n'est pas d'accord, donc c'est l'agression de l'Ukraine ». En tout cas, ce qui est certain, et que je retiens de ces discussions, c'est la centralité pour les Russes, non pas d'éléments qui relèvent factuellement de la sécurité de la Fédération de Russie, c'est-à-dire, par exemple, le sujet de la fréquence de la localisation des exercices de l'OTAN, hein, puisque l'OTAN n'a qu'une présence rotationnelle sur le flanc oriental, donc évidemment les exercices sont essentiels. Et l'OTAN, dans la réponse qu'elle avait formulée aux demandes russes, ou en tout cas dans l'offre qu'elle faisait, offrait non seulement des mesures de transparence, mais également des éléments de limitation, de discussion sur ce terrain, qui étaient intéressants
du point
de
vue
des intérêts de sécurité. Je ne sais pas s'ils se sont jamais sentis réellement menacés, mais en tout cas, qui allaient dans le sens des intérêts de sécurité de la Russie. Mais il était évident dans ces consultations que le sujet pour les Russes, c'était l'Ukraine. Et dans une fixation obsessionnelle contre l'intégrité territoriale de l'Ukraine et finalement contre la souveraineté de l'Ukraine, y compris dans le choix de ses alliances. C'était ça la fixation réellement obsessionnelle qui apparaissait au cours de ces consultations. Mais encore une fois, il était frappant pour nous de constater que nos interlocuteurs russes n'avaient pas à l'esprit, à la fin de la réunion, le point de sortie.
Ils savaient pas ce qu'ils voulaient, quoi.
Ils savaient pas ce que
quelqu'un voulait. Mais, et du coup, justement, à ce moment-là, comment est-ce que, donc là, on était sur l'avant et sur le tout pendant, et le juste après. C'est-à-dire, comment est-ce que l'OTAN, est-ce que ça a changé, je sais pas, c'est un grand bâtiment ici.
Ça a entièrement changé. Donc, l'OTAN, à partir de fin 2021, début 2022, travaille sur deux jambes, hein, c'est-à-dire, d'une part, un dialogue qui était également conduit par l'allié américain, par nous-mêmes, mais aussi par l'OTAN, puisqu'encore une fois, il y a un conseil OTAN-Russie en janvier 2022, mais elle prépare le renforcement de la dissuasion et de la défense sur le flanc oriental, c'est-à-dire le renforcement des activités de vigilance au auquel nous participions d'ailleurs et auquel évidemment nous participons a fortiori aujourd'hui, mais également la planification de la présence sur le flanc oriental. À l'époque, il y avait 4 présences avancées, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne. On a planifié le développement d'une présence avancée additionnel en Hongrie, Slovaquie, Roumanie, Bulgarie, mais surtout Roumanie. Pourquoi surtout Roumanie? Parce que c'est 800 km de frontière avec l'Ukraine et la France, le 19 janvier 2022, dans les vœux aux armées, donc le président de la République a exprimé notre disponibilité à prendre la responsabilité de la présence avancée en Roumanie. Donc il faut bien voir que, alors même qu'on était encore dans le dialogue avec les tentatives de dialogue avec les Russes, la France était aux avant-postes en fait de cette approche duale et de la préparation d'un dispositif de dissuasion et de défense.
Rappelons que ça, l'idée de cette présence avancée, c'est vraiment qu'il y ait des troupes de tous les pays, notamment les grands pays, notamment ceux dotés de l'arme nucléaire, qui se retrouvent là et que ce ne soit pas possible pour les Russes d'avancer sans se retrouver face à ces soldats. Ce qui est évidemment un élément dissuasif, en tout cas de nature à compliquer le calcul russe. C'est ça l'idée de la présence avancée.
C'est absolument l'idée de la présence avancée, c'est-à-dire d'avoir un dispositif qui, par son existence, exerce un effet de dissuasion, mais par sa robustesse, est capable aussi de contribuer à la défense.
Oui, mais pour autant, et c'est là que c'est très intéressant, c'est qu'il y a eu un changement aussi dans le concept stratégique adopté en 2022. Donc ça, cette présence avancée, c'était des mécanismes qu'on appelle parfois tripwire, c'est-à-dire cette idée que, en fait, ça protège parce que c'est pas que ces soldats-là vont arrêter toute la puissante armée russe forcément, mais que vu que ce sont des soldats d'autres armées, les Russes vont hésiter avant éventuellement d'entrer en confrontation. Mais le concept stratégique qui est adopté en 2022, c'est un concept stratégique un peu différent. C'est l'idée qu'il faut défendre chaque centimètre carré du territoire de l'OTAN, ce qui change quand même. C'est l'idée que, en fait, on ne peut pas. C'est pas seulement de la dissuasion parce qu'à cause des conséquences que ça aurait à moyen terme. C'est maintenant, il faut être capable de faire en sorte que les Russes n'avancent pas et vu la frontière que l'OTAN a avec la Russie, avec les Pays-Baltes notamment, et puis maintenant ça vient encore d'augmenter, on y reviendra, c'est très différent. Donc comment est-ce que ça a changé la manière de réfléchir de l'OTAN sur ses moyens, sur ses capacités, parce que voilà, maintenant il ne s'agit pas de dissuader, de leur faire se poser des questions, il s'agit de faire en sorte qu'ils ne puissent pas avancer sur un territoire de l'OTAN.
La continuité, c'est qu'il a toujours été question qu'ils ne puissent pas avancer. L'élément d'évolution, c'est que ce qui relevait de présence, comme vous dites, tripwire, qu'on disait en français chèvre au piquet, hein, aujourd'hui...
Chèvre au piquet.
La chèvre au piquet, ouais.
Qu'est-ce qu'elle fait, la chèvre?
Donc l'idée que si la chèvre tire la ficelle sur le piquet, ça suscite une réaction. Donc, on a maintenant des dispositifs qui sont suffisamment robustes pour pouvoir défendre. C'est le sens de la présence de Charles Leclerc, donc de blindés lourds français en Roumanie. C'est le sens aussi l'objectif d'être capable de déployer une brigade. Donc on va exercer l'année prochaine en Roumanie un exercice de renforcement au niveau brigade. Et renforcer notre dispositif de dissuasion, c'est aussi montrer notre capacité à défendre en renforçant aussi les activités sur tout le flanc est. C'est la séquence Steadfast Defender qui est en train de se dérouler, hein, du nord au sud du flanc oriental.
Moi, je me suis... Donc ça, disons-le, ce sont des grands exercices otaniens, ouais, qui sont... Comment dire, c'est... pas un grand exercice, en fait. Enfin, c'est un grand exercice, mais c'est plein d'exercices qui étaient plus ou moins prévus et qui sont mis en séquence pour faire une espèce de démonstration de force et surtout démonstration d'opérabilité, enfin, de capacité, en tout cas, sur cette frontière est. Mais bon, c'est vraiment la séquence dans laquelle on est maintenant depuis quelques semaines, quoi.
C'est un signalement stratégique qui témoigne de notre détermination à défendre le flanc oriental sur sa totalité, du nord au sud, mais également notre capacité à travailler ensemble. Plus tôt dans le mois, j'étais à la fois en Pologne et en Norvège. En Pologne, où les forces françaises été le deuxième contributeur dans l'exercice, enfin la séquence tactique de franchissement de la Vistule. Donc j'étais touchée en même temps, hein, de voir non seulement les unités blindées des Leclerc franchir un cours d'eau majeur comme la Vistule, donc on réapprend à franchir ce type d'obstacle. C'est essentiel pour être en mesure de réagir et de contre-attaquer dans un scénario qui reste défensif. C'est essentiel de pouvoir travailler avec d'autres. Donc, les 50 tonnes de Leclerc franchissaient la Vistule sur des engins de franchissement et sur des barges allemandes, britanniques, avec des Polonais. Et j'étais intéressée de voir, par exemple, le deuxième régiment étranger du génie, donc un excellent régiment du génie. Mais je me disais que la Légion étrangère avait peut-être pas imaginé se retrouver sur la Vistule. Voilà, c'est un signe des temps. De la même manière, en Norvège, où nous étions avec le Conseil Atlantique la semaine dernière, donc au-delà du cercle polaire tout au nord, l'infanterie de montagne, en l'occurrence, déployait des mortiers de 120 mm sur des skis au contact de collègues finlandais. Donc, vous voyez, c'est tout un nouvel apprentissage. Alors, quand on est féru d'histoire, évidemment, c'est touchant de revoir l'infanterie de montagne en Norvège. Vous savez qu'elle était déployée à Narvik. Mais en tout cas, techniquement, de voir nos forces se réapproprier le théâtre européen, les modes opératoires, hein, à la fois franchir un cours d'eau, comme ça, c'était le cas pour la Vistule, mais aussi opérer dans des conditions climatiques extrêmes. C'est ça, le réinvestissement du théâtre européen. Et donc, ces activités vont se poursuivre d'ici l'été. Encore une fois, c'est un signalement stratégique vis-à-vis de la Russie dans un scénario qui, évidemment, est défensif, mais c'est également le renforcement de notre interopérabilité avec nos alliés au niveau tactique.
Justement, puisqu'on parle du Grand Nord, c'est peut-être le moment d'en parler, puisque c'est la grande nouveauté des derniers mois, des dernières semaines, en tout cas pour l'intégration définitive, c'est évidemment l'intégration de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Comment est-ce que vous envisagez, parce que ça, comment dire, il y a le symbole qui est important, c'est une demande d'adhésion qui a été faite très peu de temps après l'invasion de l'Ukraine. On reparlera peut-être du processus, parce qu'il n'est pas inintéressant. Puis, il y a aussi une dimension stratégique qui est, bon, voilà, ça fait un front, enfin, potentiel. En tout cas, ça fait une menace au nord pour la Russie, qui, parce que ça démultiplie la frontière entre l'OTAN et la Russie, notamment par la Finlande. Ça change radicalement le calcul stratégique russe. En tout cas, on peut l'imaginer. Comment est-ce que vous envisagez cette intégration? Alors après, ça part pas de zéro. C'est deux armées qui étaient déjà assez interopérables avec l'OTAN. Il y avait déjà des efforts depuis de longues années. C'était pas des armées qui se connaissaient pas du tout. Mais en tout cas, comment vous envisagez cette séquence d'intégration et le fait qu'elle se traduise, disons, stratégiquement, directement, notamment face à la Russie?
Il y a trois choses sur l'intégration de la Suède et de la Finlande. D'abord, c'est l'effet de l'agression de l'Ukraine, comme vous l'avez dit, et finalement l'inverse de ce qu'escomptait Poutine, qui faisait une fixation sur le projet de l'Ukraine de rejoindre l'OTAN et qui se trouve finalement avec 1300 kilomètres de frontières en plus. Donc, premier élément, l'adhésion de la Suède et de la Finlande, ça signe la défaite stratégique que la Russie s'est infligée avec cette agression de l'Ukraine. Deuxième élément, la Suède et la Finlande, c'est un gain pour l'Alliance, mais aussi pour la sécurité de l'Europe, parce que ce sont deux démocraties robustes, avec des capacités militaires robuste, avec une base industrielle robuste et un esprit de défense également, c'est essentiel, notamment la Finlande, vous savez qu'il y a une réserve de 900 000 personnels. Troisième élément, et c'est fondamental pour l'alliance défensive que nous sommes, c'est la fermeture de la Baltique, donc qui devient un lac de l'OTAN, et qui permet...
Il y a un petit bout russe au milieu, il y a l'enclave de Kaliningrad.
Il y a l'enclave de Kaliningrad, mais je vais y revenir, hein, qui donc nous ajoute une voie de renforcement, comme on dit, en cas de conflit pour défendre les États baltes. Les États baltes, vous savez, sont un isthme difficile à défendre. Alors, en théorie pure et parfaite, et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt pour l'Estonie d'avoir deux puissances nucléaires sur son territoire, vous avez évidemment la dissuasion qui est la garantie ultime. Mais dans des scénarios de contournement du seuil par le bas et d'attaque hybride, on a avec... Et d'ailleurs, d'évolution d'une attaque hybride en attaque conventionnelle, puis d'escalade, etc. On a évidemment une vulnérabilité qui est bien identifiée avec le corridor de Suwalki, hein. C'est pour ça que je parlais de l'isthme. Et donc, fermer la Baltique, ça ajoute une voie de renforcement pour les forces de l'OTAN présentes dans les États baltes. Donc, si vous voulez, dans les scénarios défensifs où on doit faire face à une attaque russe envers les trois États baltes, avoir la Suède et la Finlande, c'est pouvoir renforcer notre contre-offensive. Donc, la Suède et la Finlande, un, c'est la défaite stratégique de la Russie. Deux, c'est renforcer les capacités dont disposent les Européens pour se défendre. Et trois, c'est un élément de renforcement dans une contre-offensive face à la Russie. Ce qui est intéressant, c'est que les Russes, hein, obsédés et focalisés sur le conflit en Ukraine, hein, en fait, ont dû déshabiller le commandement nord, notamment les forces autour de même au nord de Saint-Pétersbourg, hein, mais même réduire leur défense aérienne à Kaliningrad. Ça montre quoi ? D'abord, ça montre qu'ils ont compris que l'alliance était une alliance défensive et qu'ils ne pensent pas qu'ils risquent d'être attaqués. Deuxièmement, donc, je le dis parce que il y a beaucoup de récits, les Russes, ils se sentent menacés, c'est dur pour eux, etc., etc. Non, les choix qu'ils font en termes d'allocation de leurs forces montrent que ils n'ont pas peur d'être attaqués dans le nord. Ils attaquent en Ukraine et donc toutes leurs forces, c'est le deuxième élément que montre le retrait de ces forces. Toutes leurs forces sont mobilisées en Ukraine, qui est en train de devenir la matrice du régime et donc de la politique de défense russe.
Mais alors, peut-être c'est une manière d'évoluer, puisque on peut le dire, donc le processus d'adhésion de la Suède et de la Finlande, il a pris du temps. Il a pris du temps notamment du fait de l'opposition de la Turquie à l'entrée de la Suède, alors qui a fini par être débloquée il y a quelques mois, quand même, mais ça a pris du temps, et en fait ça pose un certain nombre de questions pour l'Alliance, même pour ses perspectives. Alors je l'ai dit au début de cette émission, mais il y a le sommet de Washington en juillet, qui est un sommet important symboliquement, parce que ça fait 75 ans, c'est un chiffre... on aime bien les chiffres un peu ronds, enfin ça fait trois quarts de siècle, ça va être important. Mais ça renvoie aux questions fondamentales des enjeux auxquels l'Alliance fait face. Donc, on l'a dit, ça va mieux, il y a eu un sens partagé, un regain d'intérêt, un regain d'activité depuis février 2022 au sein de l'Alliance. Pour autant, il y a toujours des questions, il y a toujours des problèmes, notamment avec l'allié turc, alors sur plein de fronts différents, et aussi notamment dans le cadre de la guerre en Ukraine, il y a des questions qui se posent sur l'attitude de l'allié turc. Comment est-ce que vous envisagez, disons, cette... puisqu'on l'a dit, c'est le consensus, et que la Turquie est dans l'OTAN, qu'a priori elle va y rester, donc il y a aussi une réelle possibilité de bloquer un certain nombre de choses par l'allié turc. Comment est-ce que vous envisagez, disons... puisque l'enjeu, c'est de faire en sorte que ça ne soit pas qu'un anniversaire, ce sommet de Washington, qu'il y ait des choses qui se décident, qu'on lance l'avenir de l'Alliance, et que, voilà, les capacités de l'Alliance continuent de se renforcer. Comment vous envisagez cette difficulté manifeste, un peu permanente depuis quelques mois, voire quelques années, puisque c'était déjà là à l'origine en 2019, avec la gestion notamment de l'allié turc?
Bah écoutez, l'OTAN C'est une organisation qui comprend 32 alliés, dont la Turquie, qui doit gérer le consensus avec 32 alliés, dont la Turquie. Effectivement, un allié spécifique qui a pu se comporter d'une manière qui soulève des interrogations au regard des droits et obligations qu'on peut attendre d'un allié. La France l'a dit d'ailleurs, qu'il se soit agi de l'offensive unilatérale turque dans le nord-est syrien ou quand il est arrivé à la marine turque de ne pas se conduire en allié vis-à-vis d'un navire français, quand également la France a subi des manipulations de l'information à l'automne 2020 de la part de la Turquie qui, si j'ose dire, vous savez que je me suis occupée de prévention de la radicalisation, venait attiser la haine. Et donc, tout ceci, nous l'avons dit, et le président de la République a d'ailleurs eu des entretiens bilatéraux francs, comme on dit en diplomatie, avec le président turc, du reste en marge des sommets de l'OTAN. Moi, j'ai l'expérience de deux sommets de l'OTAN à l'été 2021, après une phase de tension avec la Turquie, mais également à l'été 2022, qui ont commencé par des bilatérales qui devenaient des tête-à-tête entre le président français et le président turc. Donc, évidemment, le comportement de l'allié turc a pu susciter des interrogations, mais je dirais que l'OTAN, c'est également une partie de la réponse. C'est-à-dire, c'est aussi parce que nous sommes alliés et dans le cadre de l'OTAN que nous avons un dialogue franc, dialogue qui du reste a permis de remettre la relation bilatérale sur des rails. Et j'observe qu'à chaque fois qu'il a été rappelé à la Turquie ses droits et obligations en tant qu'allié, finalement l'allié turc fait le choix au total de l'intérêt de l'alliance. Donc ça a pris du temps pour le gouvernement turc d'encourager la Grande Assemblée de Turquie à ratifier l'adhésion de la Suède. Mais finalement, à partir du moment où l'allié américain a insisté sur les bénéfices qu'il y aurait pour la Turquie à ratifier, la Turquie a ratifié. Le dernier épisode, c'est la cession et la modernisation de F-16 que le Congrès a autorisé, mais dont je dois insister sur le fait que la Turquie l'aurait obtenu plus tôt, si elle avait ratifié plus tôt. Donc, vous voyez,
Mais ça veut dire qu'il y a une relation transactionnelle et un rapport de force à chaque fois qui s'instaure.
Oui, il y a un rapport de force, mais je pense que l'OTAN est également le lieu dans lequel on peut et donc on doit assumer ce rapport de force. Donc, bien entendu, il y a un certain nombre d'actions de la part de l'allié turc, à commencer par l'acquisition de S-400, qui ne sont pas déployés, cela étant, qui posent question sur le comportement de l'allié turc. Mais en même temps, l'intérêt général, c'est que la Turquie reste un allié. Il n'y a pas de scénario, d'ailleurs, dans lequel soit on exclut la Turquie, soit la Turquie s'exclut elle-même. Donc, il faut gérer parfois cette tension, ce rapport de force dans le cadre de l'OTAN. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que les États-Unis ont fait. Et au total, si vous voulez, la Turquie entretient certes une forme de coopération avec la Russie. On a même pu parler d'une entente brutale entre la Turquie et la Russie. Mais dans cette entente brutale, il y a une part de compétition, de tension, on le sait, dans un certain nombre de zones. Et donc, à nous, alliés, également dans le cadre de l'OTAN, et de façon respectueuse, de faire valoir à la Turquie les attentes qui sont les nôtres envers un allié. Mais c'est ce qui fait également l'intérêt du travail dans cette alliance.
Enfin, dernière question, mais qui est double, mais justement sur ce sommet de Washington à l'été, et sur ce que vous en attendez, et aussi sur ce que les alliés d'une manière générale en attendent, puisque il y a l'inquiétude qui monte manifestement de la présidentielle américaine à la fin de l'année, et de la possibilité d'une réélection de Donald Trump, dont vous avez dit tout à l'heure, enfin, dont tout le monde se soutient, ça a été rude. La première fois, comment est-ce que les alliés réagissent, et est-ce que l'hypothèse d'un retour de Donald Trump et l'hypothèse aussi d'une sortie de l'OTAN, puisque c'est quelque chose qu'on évoque, qui a déjà été mentionné, est-ce que c'est quelque chose dont vous sentez que ça monte partout, est-ce que c'est encore distant, et quelle est la place de la France dans tout ça, puisqu'on a beaucoup parlé de bon, bah, si les États-Unis se retiraient de l'OTAN, est-ce que la France serait prête à partager l'arme nucléaire? On n'a pas besoin d'entrer dans le détail ici, puisque ça a été exclu dès le début. C'est pas du tout la doctrine française, mais en tout cas, est-ce que vous sentez, du fait de cette inquiétude qui monte dans des proportions que je vous laisserai déterminer, un regard et une attente particulière vis-à-vis de la France dans ce contexte potentiel?
L'hypothèse d'un retour de Trump aux États-Unis, c'est évidemment le spectre qui hante cette organisation. Et je dirais qu'il n'y a même pas besoin que Donald Trump cherche à faire sortir les États-Unis de l'organisation, soit suspende ou module la participation des États-Unis à l'organisation. Les propos qu'il a tenus, la pratique qui a été la sienne au cours de son premier mandat, ce qu'on peut anticiper de la sociologie des responsables américains en cas de deuxième administration Trump, donc sans ce qu'on appelle les « adults in the room », mais aussi, et ça,
ça c'est l'idée que pour son premier mandat, il a dû composer quand même avec une administration d'État américaine qui était encore en place et que ça lui a mis du temps avant de réussir à imposer vraiment ce qu'il voulait faire, et que s'il revient pour le deuxième coup, ça lui prendrait moins longtemps.
Oui, et je crois que l'évolution fondamentale par rapport à la première administration de Trump, c'est celle du contexte stratégique, hein, c'est-à-dire d'une menace russe qui s'est matérialisée par le choix de la guerre en Ukraine et de la confrontation avec les Européens, et d'un Trump, mais aussi d'un mouvement MAGA, Make America Great Again, hein, qui est devenu fondamentalement pro-russe. Donc, si vous voulez, les déclarations qui ont été celles de Donald Trump, qui disait que si les Européens, entre guillemets, ne payaient pas, il l'avait dit lui-même, hein, leader européen, je ne vous protégerai pas dans ce cas-là, et même j'encouragerai les Russes à faire whatever the hell they want to do. Bon, tout ça, évidemment, c'est significatif pour l'OTAN, sans même décision de sortie ou de suspension. Alors, cela étant, ni panique, ni déni, parce que oui, c'est significatif, ni panique parce que il faudra travailler avec l'administration que les Américains se seront donné. Il faut tranquillement, mais de façon déterminée, accélérer la montée en puissance des Européens dans leur propre sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'effort budgétaire et capacitaire pour nos armées. C'est ce que la France s'attache à faire dans le cadre de la loi de programmation militaire. Ça veut dire monter en puissance dans les efforts industriels. C'est sens non seulement de ce que nous faisons à titre national dans la montée en gamme et en puissance de notre industrie, mais également des initiatives européennes et notamment des propositions EDIP et DIS du commissaire Breton, mais aussi dans le soutien à l'Ukraine. Et c'est le sens des propositions du président de la République. Donc voilà, restez calme dans la montée en puissance d'un agenda de sécurité européen.
Et du coup, qu'est-ce que vous attendez du sommet de Washington? Qu'est-ce qu'on peut en attendre d'une manière plus générale?
Il y a trois choses. D'abord, c'est l'unité. Et c'est très important de manifester cette unité dans le soutien à l'Ukraine. C'est pour nous l'axe central du fait du moment des difficultés sur le terrain et donc la nécessité de tenir. L'Ukraine tient, il faut qu'on tienne dans le soutien à l'Ukraine en se recréant des marges de manœuvre. C'est tout le sens de l'initiative prise par le président de la République avec la conférence de Paris et le suivi qu'on est en train de mettre en œuvre, qui vient du reste renforcer le travail qui est conduit ici à l'OTAN comme à l'Union européenne. Donc, unité des alliés, unité avant tout dans le soutien à l'Ukraine, dans la dissuasion et la défense. On déroule des nouveaux plans, on s'exerce de façon beaucoup plus intensive, on l'a dit tout à l'heure. Et troisièmement, partage du fardeau. Alors, il y a évidemment les 2% dont le chiffre est devenu un petit peu un totem, mais au-delà des 2%, 2% utile et une capacité des Européens à prendre des responsabilités accrues, qu'il s'agisse du flanc oriental ou du soutien effectif à l'Ukraine. Donc unité, soutien à l'Ukraine, partage du fardeau. Je crois que ce sont trois objectifs qui sont partagés à la fois par les Américains, qui ont besoin de nous entendre dire qu'on est prêt à faire davantage, et par les Européens. Évidemment, la difficulté du sommet de Washington, c'est sa date, hein, puisqu'il interviendra 4 jours avant la convention républicaine, et donc on peut s'attendre à ce qu'il alimente le débat intérieur à Washington, et à ce que les Russes, évidemment, sachent tirer parti des différences, des tensions. Bon, en même temps, on est l'alliance de 32 démocraties, donc on a un débat, et ça fait partie aussi de notre ADN de devoir gérer nos différences. Mais ce qui est quand même attendu, c'est une capacité à faire prévaloir un discours d'unité et une réalité dans notre unité. Ce sur quoi je voudrais quand même insister, c'est que l'unité des alliés depuis février 2022 est incommensurablement plus importante que ce sur quoi avait misé Poutine. Donc, on n'est pas si mal. Vous voyez, si vous dézoomez un tout petit peu, je parle même pas des pertes russes, mais on a une organisation atlantique qui s'est enrichie de 2 membres et pas des moindres. On a un front qui tient en Ukraine et on sait que cette guerre est déterminante pour notre sécurité. On a des vrais gains de la part de l'Ukraine en mer Noire, ce qui non seulement a affaibli les capacités russes, mais surtout permis le transit des céréales ukrainiennes. C'est essentiel à la viabilité du pays. On a des partenaires exposés comme la Moldavie qui aujourd'hui vont mieux qu'il y a 2 ans. La Moldavie a su s'autonomiser du gaz russe et tient bon. Donc on a une sécurité européenne qui tient bon. À nous d'y prendre des responsabilités accrues, mais ça, vous savez que c'est l'agenda français qui trouve, je crois, dans le réinvestissement de l'OTAN une continuité. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, on fait la preuve avec notre réinvestissement dans l'OTAN et sur le flanc oriental de la cohérence de notre agenda stratégique de responsabilité en Europe.
Merci beaucoup, Muriel Domnack. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. On vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon ou par les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.